Kick 95.7 Saguenay. Le show du matin. Le show du matin.
Il est 7h19 dans le cadre de notre semaine du tricolore au cours de laquelle on va vous attribuer un chandail Adidas officiel du Canadien de Montréal qui est fourni gracieusement par l'entrepôt du hockey. On a eu idée de parler avec un invité de marque. Et ce matin, je dois dire que notre invité, un, je suis très content de lui parler. Deux, c'est une idole de jeunesse. Bon, même si je ne l'ai pas vraiment vu jouer parce que j'étais un peu jeune à ce moment-là, reste que quand je jouais à NHL 94-95 et que je me montais des équipes, j'avais toujours le fun de refaire des équipes avec les anciens Canadiens et c'était tout le temps mon défenseur numéro un. Il a été, à mon avis, le meilleur directeur général de l'histoire du Canadien et surtout, il me donne le goût d'avoir des placements chez Asante, même si j'ai pas beaucoup de patrimoine, mais les annonces me donnent le goût. Monsieur Serge Savard, qu'on va rejoindre directement en Floride, est en ligne ce matin. Monsieur Savard, bon matin.
Oui, bon matin. Bon matin à vous.
Tout d'abord, parlons du Canadien de Montréal. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison écourtée?
Ah, j'ai mentionné dans une entrevue il y a quelques semaines, je l'ai appelé l'équipe bipolaire. Parce qu'on nous a donné des belles performances, puis, tu sais, on bat les Leafs de Toronto, puis le lendemain, on perd contre Ottawa. Il y a eu des hauts et des bas. C'est pas l'équipe qui a joué régulièrement, puis qu'on fait les séries éliminatoires encore une fois cette année, un petit peu par la porte d'en arrière. Vancouver nous aurait sûrement passé s'il n'y avait pas eu les cas de COVID. Mm-hmm. Alors, ça n'a pas été convaincant.
Oui, évidemment, je n'ai pas joué au hockey professionnel, loin de là. Est-ce que le genre d'environnement qu'on avait cette année était peut-être plus propice à donner mettons, une saison en dentis comme celle qu'on a eue? C'est-à-dire que là, les joueurs étaient sur la route cloisonnés dans leur chambre d'hôtel, peuvent pas sortir, peuvent pas s'aérer l'esprit. À un moment donné, ça devient lourd.
Mais je pense que c'est le fruit, là. Malheureusement, on est obligé de les blâmer un peu là, de la manière qu'ils ont formé leur équipe. C'est tous des joueurs qui viennent de transactions. On a réellement sous-estimé. On n'a pas travaillé assez fort dans la Ligue junior majeure du Québec. On a laissé tellement de bons joueurs passer, là, si on regarde. Puis quand je parle de la Ligue junior majeure du Québec, je parle pas simplement de francophones. On a des gars comme Brad Marchand. C'est parce qu'on n'a pas mis l'effort nécessaire. Il y a seulement un dépisteur ou un dépisteur à temps partiel. À la belle époque du Canadien, où on avait la moitié de l'équipe qui venait de la Ligue junior majeure du Québec, j'avais quatre recruteurs à plein temps. Mm-hmm. Alors, c'est une grosse différence.
Vous avez parlé des francophones, puis tu sais, cette semaine, je pense que ça n'a pas été assez souligné. Bon, peut-être que c'est un hasard, mais on a quand même eu une première partie de hockey du Canadien de Montréal en presque 100 quelques années d'existence, sans Québécois. Ça vous a-tu fait de quoi?
Oui, ouais, mais c'est un hasard, mais faut quand même souligner le fait qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts. On n'a pas bâti autour de la Ligue junior majeure du Québec. Il y a eu des bons gars, là. Paul Stachny, qui est 44e, ça jouait dans le Québec. Flasic, c'est 35e, ça jouait dans le Québec. Scandella, Duclair, Beauvillier, c'est tout des gars qu'on a laissé passer. Brad Marchand, il est 71e, il jouait à Moncton. Alors, si on a du personnel adéquat, si on laisse pas passer des gars comme ça.
Non, effectivement. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand on a fait le comparatif avec les Maple Leafs, qui avaient 11 joueurs originaires de l'Ontario qui étaient alignés. Et certains d'entre eux ont fait exprès là, pour aller soit terminer leur carrière ou soit signer comme joueur autonome à Toronto pour jouer chez eux parce qu'il y a un sentiment d'appartenance. Et il me semble qu'au Québec, on a de la misère avec le Canadien à créer ce sentiment-là. J'ai encore en mémoire Vincent Lecavalier qui n'avait pas voulu signer avec le Canadien. Ça avait été la même chose pour Daniel Brière. Ça a été la même chose pour un paquet de joueurs. Au moment où ils sont hot, ils veulent pas jouer à Montréal.
Ouais, c'était un petit peu sur la fin de carrière, là, mais il ne veut pas jouer à Montréal. C'était simplement là, c'était une question monétaire. Tu sais, c'est les gars en dollars américains, puis payer 10 % moins d'impôts, mais la décision, c'est, ils ne diront pas publiquement, mais ouais, la décision qu'ils prennent, elle est monétaire. On a fait une petite statistique juste pour vous dire, ça me fait tellement peine qu'on met pas l'effort nécessaire pour repêcher dans la Ligue junior majeure du Québec. On a fait une petite recherche sur dans certains pays, incluant le Québec, là, la province de Québec. Tous ceux qui ont eu plus de 30 points dans la Ligue nationale. Alors, la Suède, il y a 75 joueurs, ils en ont 12. Ça fait 16 % qui ont plus que 30 points. Au Québec, 10 sur 53, ça fait 18,9 %. En Russie, 7 sur 40, 17,5 %. La Finlande, 5 sur 44, 11,4. Alors, on finit premier dans les statistiques. Répondez-moi à la question, pourquoi qu'on continue de bouder la Ligue junior du Québec?
Ouais, effectivement, ça a été depuis longtemps, en fait. Il y en a beaucoup des joueurs comme ceux qui sont sortis. Moi, je me souviens de Christopher Letang. Je me souviens de Claude Giroux, qui n'est pas un Québécois, mais qui a joué son hockey junior dans la LHJMQ.
Il était dans la Ligue junior majeure du Québec.
Ah, oh, oui.
Harold?
Absolument.
Cette année, Drake Batterson avec les Sénateurs, on vient de le voir. C'était quelqu'un qui était dans la Ligue junior majeure?
Bon, c'est ça. Ben moi, je fais pas une histoire de langue quand je dis ça, là. Mm-hmm. Je fais une histoire parce qu'il y a beaucoup d'anglophones puis de joueurs de d'autres pays qui évoluent dans la Ligue junior majeure du Québec. Ce que je dis, c'est de pas avoir assez mis d'efforts nécessaires dans la Ligue. Puis moi, c'était un gros avantage pour moi quand j'étais gérant général, parce que toutes les équipes de la Ligue nationale sous-estimaient la Ligue junior majeure du Québec. Donc, c'était un avantage incroyable. Quand je dis un gars comme Claude Lemieux, que j'ai pris en deuxième ronde, si lui avait évolué dans la ligne de l'Ontario ou dans la ligne de l'Ouest, il aurait passé en première ronde. Parce que tous les clubs de la Ligue nationale pensaient que la ligne de l'Ouest puis la ligne de l'Ontario sont de beaucoup supérieures à la ligne du Québec.
Oui, et je pense que c'est encore un peu, en fait, très omniprésent dans la mentalité. Là, quand j'ai suivi longtemps le hockey junior, puis les dépisteurs parlaient souvent de l'Ouest comme étant le bassin le plus important et le plus intéressant à suivre, et celui de l'Ontario également. C'est un peu triste, parce qu'il y en a des bons joueurs de hockey qui jouent chez nous.
Fait que c'est ça, il n'y a pas eu de francophones dans l'alignement parce que les deux qu'on avait étaient blessés, mais les deux sont venus avec des transactions. Alors, c'était juste une question de temps. C'est de la manière qu'on a fait ça au cours des 10-15 dernières années. Là, c'est une question de temps que ça arrive.
Au pire de la saison, quand ça allait pas très bien pour Claude Julien, Dominique Ducharme est venu le remplacer. Après ça, on s'est mis à se poser toutes sortes de questions. Un individu que vous avez bien connu, Patrick Roy, derrière le banc, c'est-tu quelque chose qui peut être réalisable? C'est-tu quelque chose de souhaitable?
Ben, j'imagine que Patrick semble vouloir, j'ai vu dans les journaux, là, je ne sais pas, là, j'ai vu dans les journaux qu'il s'est engagé à un agent. Alors, il veut faire un retour dans la Ligue nationale. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant.
Est-ce que ça prendrait ça pour ramener l'espèce de sentiment d'appartenance? On dirait qu'il s'est peut-être s'est effiloché ou effrité au cours des années.
Bien, le sentiment d'appartenance, dans ce qui a trait aux joueurs, tu peux plus l'avoir beaucoup, là, parce que t'as pas assez de... Tu sais, pour ces joueurs-là, le CH ou Ottawa ou Toronto, c'est la même chose. Mm-hmm. Quand t'as plus... t'as pas assez de monde de ta tribu, ben c'est ça qui arrive, là.
Effectivement.
Faut que ça change à partir de la tête en haut, là. David Perron, ça en est un autre, là, qu'on a boudé, là. On avait la chance, il a passé 26e.
Ah, puis il a été transigé à plusieurs reprises. Je pense que le Canadien, s'il avait vraiment voulu remettre la main dessus, ils auraient fort probablement été capables de le faire, au moins via transaction, mais ils n'ont jamais voulu y aller de ce côté-là. Dites-moi, quand vous regardez le bassin d'espoir chez le Canadien, si on parle de Cole Caulfield et de Jesperi Kotkaniemi, est-ce que pour vous, il y a du positif ou encore là, on a des points d'interrogation?
Bien, j'ai vu hier, on disait qu'ils ne sont pas dans l'alignement partant pour les séries éliminatoires. Mm-hmm. Caulfield, ce que j'ai vu, un gars excessivement talentueux, 5 pieds 5, 5 pieds 6, Mais, tu sais, on voulait le jouer à 5 contre 3 parce qu'il y a beaucoup d'espace sur la patinoire, puis il y avait beaucoup de misère à jouer à 5 contre 5. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça, le style de la Ligue nationale. Puis là, ben, il n'y a pas de 5 contre 3 en série éliminatoire. Donc, on a de la misère à y trouver une place régulière dans l'alignement. Comment il va être dans les années à venir, je ne sais pas. Il y a eu des joueurs exceptionnels de taille moyenne, des gars comme Yvan Cournoyer, qui était pas grand, mais très robuste, puis qui a eu une carrière exceptionnelle avec 10 Coupes Stanley, puis avec du chandail retiré, puis au Temple de la Renommée. Alors, Henri Richard, il y en a eu des bons joueurs. Kaka, lui, il m'inquiète un petit peu. Là. C'est quand même sa deuxième, troisième année. Là. Puis, on nous a montré des belles choses là, à ses débuts. Puis, il semble plafonner. Là. Puis, pourtant, c'est un gars talentueux. C'est les deux grands espoirs du Canadien. Puis on a des failles actuellement avec ces deux-là.
Absolument. Juste avant de vous laisser, je vous pose la question. Votre meilleur coup en carrière comme directeur général, ce serait lequel?
Ben, c'est des joueurs que j'ai fait une couple de transactions qui. Ben, le meilleur coup, Patrick Carroy en troisième ronde, si je parle de repêchage.
Oui, oui. C'est dur à battre, effectivement.
C'est dur à battre. Richer, Bombasso, Claude Lemieux, des gars de deuxième ronde, des gars qui nous ont emmenés à la Coupe Stanley. Si je regarde en 86 comme recrue, Claude Lemieux puis Patrick Carroy ont fini 1-2 dans le trophée Conn Smythe à leur première année avec le Canadien. Si je regarde dans les transactions, ben je regarde toujours une transaction qui nous a amené Bobby Smith en 86. Il nous a amené une dimension qu'on n'avait pas à ce moment-là. Un grand gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, un grand centre robuste. Il nous a amené une dimension qu'on n'avait pas, puis ça nous a amené une Coupe Stanley. Pas nécessairement juste à cause de lui, mais il nous a amené la dimension qu'on n'avait pas. Et la même chose avec Vincent D'Anfous. L'échange de Vincent D'Anfous pour Shane Carson nous a amené une dimension qui nous manquait et on a gagné la Coupe Stanley en 93. Alors, quand je regarde en arrière, c'est des choses qui nous ont réellement aidés, qui nous ont donné une dimension là, exceptionnelle.
Est-ce qu'il y en a une que vous regrettez encore?
Bon, toutes les mauvaises, je le regrette.
mais la pire, là, c'est celle que vous dites jamais.
C'est tellement facile lorsqu'on regarde en arrière. Tu sais, Chris Chelios, j'ai changé Chris Chelios. Un des médecins de l'équipe m'avait dit qu'il y en avait à peu près juste pour un an que ses genoux ne te feraient pas.
Oh boy!
Alors, c'est une des raisons, mais ma seule consolation, c'est qu'on a gagné la Coupe Stanley après cette transaction.
J'espère que ce n'est pas ce médecin-là qui conseille le gouvernement pour la pandémie. Parce que...
Ben, il y a beaucoup de choses dans le hockey hein, qui se passent. Si on ne sait pas, il y avait des problèmes de genoux, mais par contre, il a joué jusqu'à l'âge de 46 ans.
Ah, c'était toute une machine, effectivement. Petite dernière. En 1971, nous, on a commémoré les 50 ans du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney, il n'y a pas très, très longtemps. En 71, le Canadien, le soir du 4 mai, joue en prolongation contre les Blackhawks de Chicago. Il était 23 heures et des poussières. Et cette partie de hockey-là a sauvé des vies parce que les gens écoutaient le hockey, étaient encore réveillés au moment où il y a eu le glissement de terrain. Vous, je pense que vous étiez blessé à ce moment-là. Mais est-ce que les joueurs du Canadien avaient été mis au courant que cette partie-là avait sauvé des vies?
Moi, je me rappelle d'avoir entendu parler de ça à cette époque-là. Mm-hmm. Je me rappelle pas exactement. Ben, sûrement parce que tu sais, on avait trois journalistes du Lac-Saint-Jean, de votre région, qui couvraient le hockey. Yvon Penneau pour le Montréal Matin, Bertrand Raymond pour le Journal de Montréal, Régent Tremblay pour la presse. Alors, la presse francophone était entièrement couverte par des bleuets. Là. Fait que, tu vois, des gars de Lac-Saint-Jean, je n'insulte pas personne quand je dis ça, on appelait Mario Tremblay le bleuet. Là.
Oh, oui.
Puis, alors, la région était très bien représentée. On a entendu parler beaucoup, oui.
Absolument. Merci beaucoup, M. Savard, de nous avoir parlé ce matin.
Merci.
Bonne journée. Serge Savard, donc, qui a été longtemps directeur général et joueur du Canadien de Montréal.
J'espère que ce médecin-là a perdu sa job.
Hey boy, hein? Non, mais tu sais, un médecin qui te conseille mal dans la vie. Oh, lui, ses genoux, il reste un an. Le problème, il était jeune, Chris Chelios. Il a joué jusqu'à effectivement autour de 40.
Joué, écoute, j'ai eu le temps de le voir jouer. Là.
Il a joué avec les Red Wings à la fin de sa carrière. Il était encore très, 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 très bon.
Ah,
mais
il était encore tannant.
Effectivement.
Il y en a qui l'auraient pris encore.
Mais je pense que dans le cas de Chris Chelios, il y avait aussi d'autres raisons de vouloir le sortir un petit peu de la ville avant que les problèmes... C'est-à-dire la vague de problèmes arrive. Là, on entendait parler d'une coupe d'affaires. Je pense qu'on n'a juste pas voulu prendre de chance. Il est 7h35. Nouvelles dans quelques secondes.
On revient tout de suite après la pause. 95.7 Saguenay. Le show du matin.